De vive voix. De vive voix, spécial JO, Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous dans De vive voix en mode culture et sport. Durant toute cette période des JO, nous allons conjuguer le muscle et la plume, la culture physique et la culture tout court. Car ils sont nombreux les artistes à s'inspirer des athlètes, de la beauté d'un geste, des valeurs sportives, pour écrire un livre, une chanson ou un film. Pour ce premier épisode, notre invité, c'est le philosophe physicien Étienne Klein. Cet expert poète des particules va nous raconter sa passion pour les sports de montagne, l'esprit de cordée et même les Rolling Stones. Et puis bien sûr, à tout moment, priorité au direct pour les JO, vous pourrez retrouver les journalistes du service des sports de RFI pour vous faire vivre les compétitions qui se jouent en temps réel. De vive voix spéciale JO, c'est parti. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour.
La science physique et le sport physique, ça va de pair pour vous. Alors avant de parler de votre passion pour l'alpinisme et l'ultra-rail, hein, cette course à pied hors route, vous vous dites avoir éprouvé un véritable coup de foudre pour la montagne à l'âge de 20 ans. Pouvez-vous nous raconter ?
On passait avec ma famille nos vacances à la campagne. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai eu droit, on était 7 enfants.
Ah oui, 7.
J'ai eu droit en tant que... celui qui avait passé les concours des grandes écoles, j'étais un peu fatigué, j'ai le droit de faire un stage avec l'UCPA, faire le tour du Mont Blanc. Et donc je suis arrivé un matin par le train de nuit à Chamonix. Ouais. J'ai levé la tête et j'ai vu des choses incroyables. Des sommets enneigés, des 4000 mètres. Et j'ai senti tout de suite que j'avais ce que Bachelard appelait un psychisme ascensionnel.
Un psychisme ascensionnel.
Donc j'avais la tête dressée vers le haut, ouais. Mais je ne savais pas que j'allais devenir alpiniste. En fait, j'ai croisé quelques alpinistes pendant ce séjour, mais pour moi, c'était des gens d'une autre catégorie. Mmh. Il y avait une paroi de verre qui me séparait d'eux. Il m'a fallu 10 ans de randonnée pour franchir cette paroi de verre.
Ouais. Vous dites, la montagne, tout de suite, ça correspondait à ce que j'étais, ce que je ressentais, la liberté. Et en même temps, c'est un monde de contraintes, la montagne, comme la physique, comme les mathématiques, comme les sciences.
C'est un monde de liberté, mais cette liberté ne va pas sans responsabilité. Donc c'est la vraie liberté, en fait. Quand vous faites des ultra-trails, des courses très longues, très paradoxalement, vous êtes soumis à toutes sortes de contraintes, la fatigue, la soif, la douleur, souvent. Mais vous vous sentez libre.
Ce qui peut sembler paradoxal, voilà. Quand même.
Vous êtes responsable de ce que vous faites, tout en étant libre. Et c'est quelque chose d'assez spécial, parce que dans la vie courante, on peut très souvent être dérangé ou bien être aidé. Et là, au contraire, on est devant soi.
Devant ses propres responsabilités, voilà. Finalement. Ouais. Et en même temps, je crois savoir, Étienne Klein, vous dites que j'aime les sports d'agonie. Ça veut dire quoi, les sports d'agonie ?
Moi, je respecte tous les sports, hein, ouais. Mais j'en pratique peu. Voilà.
Enfin, si, vous n'en pas.
Non, je n'aime pas trop les sports où il y a des lignes blanches, par exemple. Les sports où il y a des arbitres.
Ah bon ?
Les sports où il y a des spectateurs.
Il y a des règles.
Où il y a des spectateurs. Où il y a des terrains. Je préfère les sports en liberté qui durent longtemps, les sports d'endurance.
Oui, mais d'agonie. L'agonie, il y a une notion de souffrance quand même, non ?
Vous connaissez cette phrase de Murakami, le grand auteur japonais qui fait des courses de 100 km.
Oui.
Il a cette phrase qui me sert souvent de viatique. La douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle.
Ah, c'est pas mal. Hein.
Donc on a toujours mal quelque part, mais on n'est pas obligé de convertir cette douleur qui en général est locale, c'est le genou, le pied, la cheville, en une souffrance globale. On peut la cantonner là où elle se trouve. Et il arrive, c'est un petit miracle, qu'elle passe. Alors même qu'on continue l'effort qu'il a produit.
Oui, c'est ça.
C'est quelque chose qu'on peut se répéter parfois.
Oui.
Y a des blessures qui conduisent à l'abandon. Et puis il y en a d'autres qu'on arrive à oublier parce qu'elles se dissolvent dans l'effort.
Alors je crois savoir que quand Étienne Klein court ou escalade dans ses écouteurs, on entend ça. Étienne Klein, physicien et fan des Rolling Stones. En quoi l'alpinisme ou la montagne, c'est rock ?
Rock, il y a des rochers quand même.
Oui, ah, pas mal.
Et là, cette chanson s'appelle Gimme Shelter. Et parfois, quand on est dans l'orage, dans la tempête, quand on va pas bien, on a envie d'un refuge. Donc c'est une chanson qui parfois rencontre des circonstances où elle prend tout son sens. Il y en a d'autres, hein, je ne suis pas tout le temps en train d'écouter la même.
Hein. Oui, mais toujours les Stones.
Mais ils en ont écrit 400.
Ouais. Mais toujours les Stones.
Pas toujours, je ne suis pas monomaniaque. Mais j'y reviens toujours.
Ça vous donne de la force.
Ils sont toujours là. Hein.
Bah bien sûr, je sais. Ce qui prouve aussi qu'eux aussi sont l'endurance et la résistance.
Ils jouent ensemble depuis 62 ans.
Eh, les papy rockers quand même. Il paraît que parfois, vous avez, lors de certaines ascensions, vous avez éprouvé des hallucinations, c'est vrai ?
Oh, bah, je ne vais pas tout seul. Ouais. Quand on fait des efforts très longs, c'est plutôt dans les ultra-trails, la nuit, on voit des choses qui n'existent pas. On voit des lampes frontales qui en réalité sont des étoiles. Enfin... Enfin, le cerveau nous distrait, peut-être qu'il s'ennuie. Donc, il aimerait qu'on dorme, mais comme on ne dort pas, on marche ou on court, bah, il envoie des spectacles.
Des voilà. Spectacles voilà. Internes, en fait.
Donc, j'ai déjà vu des lapins qui discutaient au bord du chemin.
Vous êtes sûr que vous n'avez pas pris quelque chose ?
Non, je pense que le cerveau... En fait, je pense que ces sports d'endurance sont des sports pour lesquels nous sommes faits, les humains. Ce n'est pas des nouveaux sports qu'on est en train de réinventer, c'est la reprise d'activités très anciennes. Quand Néandertal les chassait, il le faisait sur des territoires de 100 km.
Ouais.
Je pense qu'on est vraiment fait pour ça.
Et c'est aussi la reconnexion aussi avec sa propre intériorité aussi.
Non oui, et puis il faut interroger le fait que quand vous faites une course comme ça très longue, dans les jours qui suivent, même dans les semaines qui suivent, si tout s'est bien passé, vous vous sentez incroyablement bien, physiquement et psychologiquement. Et je pense que le cerveau a été remis à zéro, nettoyé, savonné par la longueur de l'effort. Je pense que le ouais. Corps et le cerveau, c'est une intrication extrêmement compliquée. La pensée, elle n'est pas cantonnée dans la boîte crânienne. Elle est innervée par toutes sortes d'informations qui viennent du corps. Et je pense qu'on a tort de circonscrire l'activité intellectuelle au seul cerveau. Mais moi, je pense que le corps, c'est une assez bonne analogie de ce qu'on fait en physique. En fait, on vit dans le monde. Ce que j'appelle le monde, c'est la Terre. On n'est pas n'importe où dans l'univers. On est sur Terre, dans un champ de gravité qui est ce qu'il est. On n'est pas dans le vide. On est dans l'atmosphère. On a des vitesses de déplacement qui sont négligeables devant la vitesse de la lumière. Donc le temps nous apparaît absolu, universel, parce que quels que soient les mouvements qu'on fait dans l'espace, nos montres restent synchronisées avec celles des autres. Et ce monde dans lequel nous vivons, en fait, il nous masque et il nous trompe sur l'univers. Mmh. Il nous fait croire que les lois permettant de le comprendre sont celles qui nous montrent, qui ressemblent aux phénomènes auxquels on assiste, alors que les vraies lois universelles, elles sont cachées par le fait que nous sommes dans un monde tellement spécial qu'il nous empêche de les voir.
Et on va tenter de les voir, ces règles-là, s'il y en a ou pas, avec Étienne Klein sur RFI. C'est le physicien, philosophe des sciences et amateur d'alpinisme, Étienne Klein, notre invité. Étienne Klein, durant l'été 2022, vous réalisez un rêve, gravir les mythiques grandes Jorasses. Vous pouvez nous dire où ça se situe pour nos auditeurs exactement ?
Ah bah c'est du côté de Chamonix,
c'est ça ?
En haut de la Vallée Blanche. Alors vous dites gravir, non, j'ai fait la grande traversée.
Ah, la grande traversée, ça a duré
3 jours.
Voilà, à quel...
C'est à 4000 mètres de moyenne, il y a plusieurs points dans les grandes Jorasses. La pointe Walker, la pointe Young, la pointe Marguerite. Et donc on les fait les unes après les autres.
Alors évidemment, vous n'étiez pas seul avec votre ami réalisateur et guide de haute montagne, François Damilano, qui d'ailleurs en a fait un film, ça s'appelle L'esprit de cordée. Et forcément avec vous, Étienne Klein, ça commence toujours par un... anagramme.
Bah, je sais pas si tu connais l'anagramme de la face nord des Grandes Jorasses. L'anagramme, c'est le donjon à des regards fracassés.
Là, ça rigole plus.
Le fait de s'engager, c'est exister. Vivre et exister, c'est pas exactement la même chose. Exister, c'est aller se faire voir ailleurs pour constater qu'on y existe encore. Et peut-être qu'on y existe plus.
Étienne.
Oh, un café. Oh, incroyable. Un café qui est apporté au lit. Ah vache. C'est quand même vachement bon. Merci François.
Merci François, ça fait du bien, un bon petit café. Vivre, exister, ce n'est pas la même chose, dites-vous. La montagne, ça vous rend totalement philosophe, vous, non ?
En tout cas, ça fait 30 ans que je grimpe, ça s'est toujours bien passé, à quelques exceptions près. Mm-hmm. Mais là, dans les Grandes Jorasses, on avait prévu de faire un film sur le rapport au temps en montagne. Et puis les conditions ont fait que ça a été un peu autre chose. Je n'aurais pas dû dire l'anagramme qu'on vient d'entendre.
Oui.
Le donjon avec des regards fracassés, parce que dès le lendemain, on s'est pris un orage à 4000 mètres épouvantable.
Et là, il faut tout se réadapter.
J'avais jamais vu ça. Enfin, un orage à 4000 mètres, en tout cas celui-là, était effrayant. Vraiment effrayant. Avec des bombes qui explosent à quelques dizaines de mètres de nous, les oreilles qui bourdonnent, les cheveux qui se dressent. Enfin, on a tiré des rappels à toute vitesse. Et au sixième, je me suis blessé le dos.
Ah, quand même.
Et heureusement, j'ai découvert à cette occasion que la peur est analgésique.
C'est-à-dire ?
Quand on a peur, on n'a plus mal. Et donc j'ai pu continuer cette course de 3 jours avec une côte fêlée. Mais j'avais tellement peur que j'avais pas trop mal. Quoi.
Ouais, incroyable.
Et quand on a cessé d'avoir peur, ouais. Quand on a atteint le refuge Boccalate en Italie, là, on savait que c'était bon. Là, j'ai eu très mal. Mais j'étais très content.
Ouais, c'est ça. Non, mais en même temps, c'est une bonne leçon de vie aussi, parce que la peur, les peurs, il y en a tellement dans la vie de tous les jours, que quelque part, ça donne
une
force.
Là, c'était une peur continue, oui. Parce que les montagnes, c'était la canicule, et on n'avait pas anticipé que la montagne n'était pas du tout en bonne condition. Il y avait des chutes de pierre à beaucoup d'endroits. Les chutes de pierre, c'est quand même impressionnant. Et ça crée un stress que je n'avais jamais connu. Et donc, moi qui ai écrit quelque part que j'aime la montagne et je postule en vertu d'une sorte de réciprocité qu'elle m'aime aussi, là j'ai compris que cet amour n'était pas forcément partagé et
forcément
qu'on peut parfois être victime des colères de la dame.
L'esprit de cordée, c'est pas anodin ce titre, c'est aussi toute une philosophie, l'esprit de cordée, c'est la... solidarité, c'est on compte sur son guide, on compte sur son ami.
C'est l'illustration de la phrase de Camus. Il disait un homme, ça s'empêche. Un homme, ça fait pas n'importe quoi. Et dans une cordée, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours connu, le plus souvent avec Bruno Martin, qui est mon guide depuis très longtemps, avec François Damilano ou d'autres, j'ai éprouvé ça. Dans une cordée, on fait pas n'importe quoi parce qu'on est responsable de l'autre.
C'est ça.
On est responsable de soi. Donc c'est un esprit de cordée qui est symétrique. Mmh. Le premier de cordée, ce n'est pas la notion qui m'intéresse le plus, c'est l'esprit de cordée.
Ouais.
Et pendant cette traversée qu'on peut qualifier d'épique,
ouais.
Moi j'ai vu l'esprit de cordée à plein gaz. Hein.
Ouais.
Parce qu'il y a des passages, notamment quand on traverse des couloirs de glace qui sont à 80 degrés, que les pierres tombent, mm-hmm. On est encordé à l'horizontale. Et en fait, si l'un tombe, l'autre est embarqué par la vitesse qu'il prend et tombe aussi. Donc c'est vraiment... un lien très très fort.
On est dans la tête de l'autre aussi, en fait.
On est en interaction avec l'autre, même si on ne parle pas, même si on ne crie pas. Il y a des messages qui sont transmis par la corde, par la gestuelle, par la gestique, comme on dit.
Ouais.
Et donc, c'est une relation qui relève plus que de l'intrication quantique que de la transmission d'informations.
Ah, je vois. Mais c'est donc aussi la fraternité, la solidarité, portée à son paroxysme.
Oui,
c'est ce que vous aimez aussi.
Que cet esprit de cordée descend dans la vallée.
C'est ça, voilà.
Ou dans la plaine. On vivrait mieux en société. Bon, mais il y a aussi des histoires qu'on lit dans certains livres d'ascension en cordée qui se passe mal. Mais moi, j'en ai jamais vu.
Mais comme vous dites, il faudrait que cette solidarité, cet esprit-là de fraternité redescende un petit peu dans la plaine. Comme...
Oui. Oui, je trouve que les relations, c'est en tout cas ce que je perçois à Paris, parfois se tendent. Sans qu'on comprenne bien pourquoi.
Ouais, mais là, ce n'est pas la cordée qui se tend, ça manque d'esprit de cordée, vous voulez dire.
C'est ça, c'est ça.
Ouais. Et c'est pour ça qu'Étienne Klein regrimpe dans sa montagne.
Oui, alors moi, je ne fais pas que des choses aussi folles qu'en 2022. Là, je prends de l'âge. J'aime les courses... qui sont à mon niveau, qui ont une histoire.
Des récits, des légendes,
des pionniers. Pour lesquels il y a des récits des premières ascensions, par exemple, avec des refuges dans lesquels plein d'histoires se sont passées. J'aime quand la montagne se nimbe de littérature. Et c'est des belles courses, c'est des petits 4000 que je fais avec Bruno Martin ou quelqu'un d'autre. C'est à mon niveau. On choisit la fenêtre météo qui va bien.
C'est ça, maintenant.
On mange du saucisson.
Et on écoute les Rolling Stones.
On se raconte des blagues.
Et nous sommes toujours en compagnie du physicien philosophe Étienne Klein pour parler esprit de cordée, alpinisme sur RFI. Forcément, qui dit alpinisme dit Everest, l'ascension de la plus haute montagne du monde, qu'on surnomme le toit du monde, qui a forcément inspiré beaucoup de films au cinéma, à commencer par Everest, le film américain réalisé par Balthazar Kormákur, sorti en 2015, inspiré d'une histoire vraie, comme on dit.
Là, je souffre. dans quelques jours, et pour toute ta vie, tu seras le type qui est arrivé au sommet de l'Everest.
Rob, au camp de base.
Rob, où es-tu?
Au sommet de l'Everest, Hélène.
Rob, réponds. Il y a des nuages qui montent de la vallée. Beaucoup de nuages.
Oh non.
Je veux pas mourir.
Rob, tu m'entends? Il faut que tu bouges vite.
Si quelqu'un peut y arriver,
c'est toi.
Je t'aime.
Everest, film inspiré de la tragique expédition en mai 96 qui a causé la mort de 8 grimpeurs confrontés aux plus violentes tempêtes de neige que l'homme ait connu. Étienne Klein, écoutez cet extrait de film. À mon avis, c'est pas votre film de chevet, j'ai l'impression.
Mais ils sont pas trop, ils sont pas très essoufflés, je trouve.
C'est pas crédible.
Ils sont à 6000, 7000. Ils n'ont pas l'air très essoufflés, donc ça. Bon, sinon, non, je l'ai pas vu ce film, je dois reconnaître. Mais l'Everest n'est pas le plus haut sommet du monde.
Ah bon, pardon.
Non, le plus haut, ça dépend de quel critère on prend.
Ah, voilà.
Si vous prenez comme critère la distance par rapport au centre de la Terre, le sommet qui est le plus loin du centre de la Terre, c'est le Chimborazo, qui est un sommet de l'équateur. C'est parce que la Terre, elle n'est pas plate, mais elle est un petit peu aplatie.
Ouais. Oui.
Et donc la distance du Chimborazo qui est près de l'équateur par rapport au centre de la Terre est plus grande que la distance du sommet de l'Everest par rapport au centre de la Terre. Et en fait, l'Everest, c'est le plus haut par rapport au niveau de la mer.
D'accord.
Donc il y a un petit problème intéressant pour nos auditeurs. On imagine qu'on construit un aqueduc entre le sommet du Chimborazo et le sommet de l'équateur. Et la question est, dans quel sens va couler l'eau? Est-ce qu'elle va couler de l'Everest jusqu'au Chimborazo ou du Chimborazo jusqu'à l'Everest?
Et on n'a pas la réponse.
Si, moi je l'ai.
Ah, allez-y.
Mais non. Non, il faut réfléchir.
Allez, on réfléchit. N'empêche que là, tous ces films, c'est l'exploit. C'est à celui qui montera le plus haut. On est loin de l'esprit de cordée, non? Ou pas?
Oh, écoutez, il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait que l'ascension de l'Everest soit de plus en plus commerciale. Les prévisions météo sont tellement bonnes maintenant qu'on peut calculer la fenêtre temporelle qui sera optimale pour l'ascension, ce qui crée des embouteillages sur l'arête sommitale.
La pollution aussi, les déchets.
Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui critiquent ça. Moi, je continue quand même à admirer les gens qui gravissent l'Everest. Je pense que ce n'est pas un effort anodin, quoi qu'on en dise.
Alors, autre film que vous avez peut-être vu, cette fois-ci, c'est Le Sommet des Dieux. Alors ça, c'est un film d'animation qui a été réalisé par Patrick Imbert, d'après un manga japonais qui raconte l'épopée légendaire de l'alpiniste anglais George Mallory, disparu en juin 1924 sur la crête nord de l'Everest.
L'alpiniste trouve toujours de nouveaux défis. Ça finit jamais.
Je sais ce que vous voulez faire cet hiver. L'Everest, la face sud-ouest.
Tu rigoles? Personne ne peut faire ça en hiver.
S'il vous plaît, laissez-moi grimper avec vous. Je ferai tout ce que vous me direz.
8 ans qu'il se prépare. Cette ascension, c'est tout pour lui.
Ici, camp de base, vous me recevez? Vous êtes en retard sur l'horaire. L'orage sera là-haut avant vous.
Ne cherche pas à le suivre à tout prix. Le corps n'est pas fait pour survivre à cette altitude.
On a perdu trop de temps. La fenêtre est trop courte.
Demain-ci, réveille-toi.
Laisse-moi.
Pourquoi tu fais ça? Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Il n'y a plus que ça qui compte.
Un extrait du Sommet des Dieux, l'alpiniste obsessionnel malgré le danger, la mort. Est-ce qu'Étienne Klein, vous qui vous dites alpiniste amateur?
Amateur, très amateur.
Très amateur.
Et moi, je ne fais pas de relation entre l'alpinisme et la mort.
Voilà. Vous comprenez cette quête ou pas? Non, ce n'est pas la mort.
Je la comprends, oui. Je pense qu'il y a cette idée que là-haut, il se passe des choses et qu'il faut aller y voir. C'est l'esprit de conquête qui peut être pensé de façon plus ou moins militaire, plus ou moins sportive, de plus ou moins nationaliste. Il y a toutes les versions qui ont existé dans l'histoire de l'alpinisme. Mais le fait d'aller là-haut pour voir ce qui s'y passe me semble être une pulsion plutôt positive. Vous savez que la première montagne qui a été escaladée, c'est le Mont Aiguille, dans le Vercors, en 1492. Il a été escaladé sur ordre du roi Charles VIII.
Ouais.
Parce que la légende voulait que le paradis se trouve au sommet de cette montagne, qui est très plan. Et donc, il y a plusieurs cordées qui ont escaladé cette montagne avec des échelles, des échevaudages même, et qui ont vérifié que là-haut, il n'y avait pas le paradis.
Et alors,
1492.
15e siècle.
Mais on peut même renverser le raisonnement et essayer de demander, dès lors que les montagnes sont là, pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps pour avoir envie de les escalader?
Autre énigme. Vous dites avoir aussi une vision monarchique, non, en haut de la montagne.
C'est une expression de Bachelard, ça, Gaston Bachelard, philosophe des sciences que j'aime beaucoup. Ouais, quand même, quand on est au sommet et qu'on voit tout autour des sommets plus bas, qu'on voit les vallées, les petits villages qui semblent complètement écrasés au loin, on a l'impression d'être peut-être pas un monarque, mais privilégié quand même. Après, il y a la descente.
C'est ça, et là...
La descente, c'est une descente à la fois physique, on perd de l'altitude, mais c'est aussi une descente psychique. On s'éloigne de l'objectif. Voilà. Et ça, ça peut être douloureux, d'autant plus que ça fait mal aux genoux et à d'autres endroits du corps. Donc la descente, c'est quelque chose qu'on met jamais vraiment en valeur, c'est pas ce qu'on montre, c'est une épreuve. Moi, j'ai jamais descendu une montagne en formant, pendant la descente, le projet d'une nouvelle ascension.
C'est-à-dire
J'attends plusieurs jours après d'être redescendu pour avoir envie d'y retourner.
Ouais, il faut
la descente, ça peut être très long, ça peut être très dur, ça dépend des endroits. Mais dans la Napurna, par exemple, moi, j'ai pas été au sommet, mais j'ai fait le Grand Tour. Il y a des descentes qui sont vraiment très très longues.
De vive voix spéciale JO avec le physicien philosophe Étienne Klein sur RFI. Étienne Klein, vous citez souvent forcément Albert Einstein, votre confrère, le physicien mondialement connu pour sa théorie de la relativité. Albert Einstein, il disait vraiment construire une nouvelle théorie, c'est comme escalader une montagne. C'est de lui ces mots-là,
oui, ou pas ? Oui, parce qu'en fait, une fois qu'on est arrivé au sommet, le point d'où on est parti, le village d'où on est parti, apparaît sous un autre angle. Donc on voit les mêmes choses, mais d'une autre façon. Et en l'occurrence, quand on construit une nouvelle théorie physique, ça donne une nouvelle lecture, parfois, de phénomènes qui avaient été décrits autrefois avec d'autres concepts. Donc on change de point de vue. Et d'ailleurs, au mois de septembre, avec deux collègues, Laurent-Frédéric Bollet, et puis un dessinateur, Christian Durieux, on sort une bande dessinée qui s'appelle « L'éternité béante », dans laquelle on rêve qu'Einstein revient parmi nous.
Bah voyons.
Et on a la possibilité de l'amener un peu partout où on veut sur la planète pour lui faire découvrir le monde d'aujourd'hui.
Et vous l'emmenez où ?
Et on l'emmène, une des étapes, c'est le Mont Cervin. On escalade le Mont Cervin parce que Einstein, quand il vivait à Berne, a eu des idées très très importantes en escaladant une montagne qui est près de Berne, avant le lever du soleil. Et quand le soleil s'est levé, il a pu voir l'heure qui était indiquée dans la grande horloge de Berne. Vous avez une énorme horloge à Berne. Et de très loin, il pouvait voir qu'il était 7 heures. En tout cas, l'horloge indiquait 7 heures. Et il s'est demandé, mais l'horloge indique 7 heures, c'est ce que je vois, mais est-ce qu'il est encore 7 heures à Berne ? Sachant que la lumière a mis du temps pour me parvenir, au moment où moi je lis 7 heures sur le cadran de l'horloge, peut-être que là-bas, l'heure est différente. Et ça l'a mené à la théorie de la relativité.
Incroyable.
Donc la montagne, c'est très important en physique.
Et Albert Einstein, vous ne l'amenez pas uniquement à la montagne
Ah non, on l'amène partout, on l'amène sur la Lune même.
Ah ouais.
On l'amène dans le laboratoire d'Alain Aspect, où a été découvert la non-séparabilité quantique qu'il avait prédite, mais à laquelle il ne croyait pas.
Qu'est-ce que Albert Einstein, tiens, aurait pu ressentir en entendant ça ? On parlait tout à l'heure, Étienne Klein, de la peur, de la tempête de neige, la montagne. On se sent là, pour le coup, petit.
Est-ce qu'Einstein a éprouvé la peur ? C'est une bonne question. Moi, je sais qu'il a, presque en toutes circonstances, été d'un calme olympien. Personne n'a jamais vu s'énerver. Est-ce qu'il a connu la peur ? Il y a une photo qui le montre avec Marie Curie.
Ouais.
Ils sont en train de marcher au bord d'une crevasse. Et il harcèle Marie Curie en lui disant « Mais Marie, je veux absolument comprendre ce qu'on ressent quand on tombe en chute libre. »
Ah oui.
Donc il était dans un état d'esprit qui était quasiment indépendant du contexte assez dangereux dans lequel il était. Quoi.
Ah ouais.
C'est quelqu'un qui avait une sorte de cheminement intellectuel qui, pour ce que j'ai pu en comprendre, était relativement indépendant du contexte particulier dans lequel il se trouvait, du lieu où il se trouvait, etc.
Étienne Klein, vous qui aimez les sports d'agonie, on a commencé comme ça cette émission.
D'épuisement.
D'épuisement.
Agonie, il ne faut pas exagérer.
Ah, j'ai lu quelque part que vous auriez aimé avoir 25 ans aujourd'hui et faire le Tour de France.
Alors j'aimerais bien, oui, comme expérience de pensée, faire le Tour de France, enfin en tout cas une étape. Moi, quand j'étais enfant, j'étais admiratif du visage des coureurs du Tour de France à l'arrivée des étapes.
C'est vrai, alors que les visages sont défaits.
Ils étaient complètement marqués, etc. Et ça leur donnait une beauté sublime. Aujourd'hui, c'est bizarre, ils ont pas l'air fatigués, ils ont le visage assez lisse.
C'est bizarre, non ?
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Dit-il, avec un gros point d'interrogation. Pour terminer, Étienne Klein, Un petit quiz, tiens, pour savoir quel esprit sportif vous êtes, bien qu'on l'a un petit peu compris quand même là. L'essentiel pour vous, c'est de gagner ou de participer ?
Moi, je n'ai pas le choix, c'est de participer. Je m'adapte à ma condition.
Et durer ?
À durer, oui. Moi, je suis très angoissé par la vieillesse.
Le rapport au temps qui passe.
Le temps qui passe, ça je m'en fiche. Par contre, ce qu'il fait sur le corps, ça m'intéresse plus. Ça m'angoisse plus. Ouais, le fait de baisser en vivacité, en vitesse, en souplesse. Voilà.
Vous êtes plutôt sport individuel ou collectif ? Vous avez un peu répondu.
Sport individuel, encore des.
Votre rôle préféré au sein d'une équipe, c'est quoi ? Leader, compétiteur, coéquipier ?
Coéquipier.
La beauté d'un geste ?
Alors pour moi, le plus beau geste, c'est quand on est dans une cascade de glace. On a des crampons plantés dans la glace en bas et deux piolets assez courts dans les mains. Et on marche verticalement à quatre pattes. Je trouve ça très beau.
Ouais.
Très, très beau. C'est le mouvement de l'alpinisme le plus esthétique pour moi.
La plus belle valeur du sport, quel qu'il soit à vos yeux, c'est quoi ?
C'est dire merci. Merci à la nature, à la montagne, au corps.
Vous revenez toujours au corps.
Hein. Ben oui, parce que l'ultra-trail, par exemple, c'est impossible d'expliquer au corps le projet dans lequel on l'embarque. Donc on lui dit, écoute, si tu m'aimes, tu me suis. Et il rechigne quand il découvre la difficulté de la tâche, il envoie des signaux de mécontentement, on appelle ça des douleurs. Et s'il veut bien terminer, ben la moindre des choses, c'est de le remercier, de le féliciter et de lui offrir une petite bière.
En écoutant des Rolling Stones. Bah, c'est moi qui vais vous dire merci alors.
Bah, merci et bel été à tout le monde.
Allez, merci Étienne Klein d'avoir joué le jeu de vous être raconté à travers le sport et les montagnes sur RFI. Merci beaucoup.
Cada día que me enamoro. De la vecina del cuarto, de la panadera, de la que vende los billetes en el metro, de la barrendera. Cada día que me enamoro.
Tú la vecina del patio. Yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba. Por ti yo me decapitaría. Viva tú, viva tú. Viva tú la Marelu. Viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú.
Y tú, y tú, y tú, viva tú.
Manu Chao et Viva Tout sur RFI. De vive voix, c'est fini. Merci ma belle équipe olympique. Sophie Jeannin à la réalisation. Mehdi Jaziri et Chloé Gomez à la rédaction. On se retrouve demain à la même heure avec l'acteur Charles Berling. C'est un passionné de rugby, vous le verrez, de l'esprit de mêlée. Charles Berling convaincu que la culture populaire comme le sport sont des vraies boussoles pour nous rassembler. On en parle demain dans De vive voix. D'ici là, belle journée à l'écoute de RFI.